Place Info.
Bonsoir. Trump, stop ou encore les élections américaines. Dans un an, nous leur consacrons la deuxième partie de ces informés. Nous reviendrons sur l'incendie à Chanteloup-les-Vignes, les JO 2024, première pierre du village olympique en Seine-Saint-Denis. C'est dans les informés avec Mariam Pirzadeh, journaliste présentatrice à France 24, avec Philippe Martina, grand reporter politique au Parisien aujourd'hui en France, avec Marie-Cécile Nave, docteur en sciences politiques, directrice des études du think tank Sport et Citoyenneté. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques LIRIS et spécialiste des États-Unis, avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Mais comment expliquer cette flambée de violence? Édouard Philippe, en pleine visite ce matin du chantier du village des athlètes de Paris 2024 à Saint-Ouen, a eu ces mots en direction de ceux qui ont incendié le centre des arts de la Seine et du cirque de Chanteloup-les-Vignes.
C'est donc un message de soutien et de soutien très sincère et tout à fait complet aux élus locaux qui doivent affronter ces situations. Un message de solidarité vis-à-vis de toute la population de cette ville et des villes avoisinantes qui se trouvent évidemment affectées par ces dégradations, mais aussi un message de fermeté à l'égard de la petite bande, car je crois qu'en vérité il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses.
Gilles Bornstein, mauvaise humeur, hein, Édouard Philippe, petite bande d'imbéciles, d'irresponsables, les mots sont quand même assez cash.
Oui, ils ne me paraissent pas exagérés, parce que je vois pas trop ce qu'il y a à redire à ce qu'il vient de dire. C'est vrai, ce qu'on pourrait constater, on pourrait contester le fait que c'est une petite bande. Alors, je ne suis pas spécialiste de Chanteloup-les-Vignes, mais...
Une trentaine, apparemment.
Voilà, de ce qu'on a lu, ils étaient assez peu nombreux. C'est vrai que, dans l'intitulé, quand vous nous avez présenté lors du jour de l'émission, vous nous disiez, est-ce que la mobilisation des banlieues, enfin, est-ce que les révoltes des banlieues peut se mêler à la mobilisation sociale? On a l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les gilets jaunes voulaient des services publics que eux veulent détruire, eux essayent de protéger un territoire parce que il y a du deal, alors que les gilets jaunes veulent plutôt s'éloigner des centres-villes. Bon voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ces phénomènes de sauvagerie.
Mariam Pirzadeh, vous diriez qu'il y a une sorte de montée d'escalade de la haine, notamment anti-policiers, hein, dans certains quartiers.
Oui, effectivement, parce que visiblement c'est un concours sur Snapchat pour taper, excusez-moi l'expression, du policier. Moi, ce qui me surprend en fait,
des
pompiers. Donc, ce sont des gens quand même qui se mobilisent, qui vont sur place, qui se font attaquer. Il y a deux blessés parmi les policiers dans cet incident à Chanteloup-les-Vignes. Bande d'imbéciles, je trouve. Ça peut-être un peu léger parce que c'est quand même un délit. Ils ont mis le feu, ils ont blessé des personnes. Et ce qui me surprend aussi, c'est l'âge de ces personnes qui sont. Il y a deux personnes qui sont en détention.
Il y en a deux qui sont déférées au parquet de ce soir et il y a un mineur parmi les deux.
Il y a un mineur. Alors on peut faire un lien aussi avec Béziers aussi. La personne qui est mise en cause à 15 ans. Moi, ça me surprend en fait. Ces jeunes qui s'attaquent en fait à leur patrimoine, en fait, à ce qui peut leur rendre service, à ce qui peut rendre leur vie plus agréable.
Qu'est-ce que l'on sait, Philippe Martina, de ces bandes, notamment à Chanteloup-les-Vignes?
Je pense que ce sont des bandes de trafiquants, hein, qui sont, eux, dans une logique totalement différente. Ils sont pas... Il y a un rapport de force qui s'est installé avec la municipalité qui, elle, voulait éclairer les rues, et ça les dérange, visiblement. Et donc, dans ce rapport de force, ils cassent, ils provoquent, et ils essayent de... Ils dérangent énormément la population locale. Mais eux, ils sont dans une autre logique. Ils sont extraits de cette population locale, d'une certaine manière, même s'il y a une économie parallèle qui fait vivre aussi les cités, hein, c'est vrai. Mais je crois que pour l'instant, effectivement, je vois pas de phénomène de tache d'huile en direction des banlieues, parce que c'est vraiment circonscrit à un trafic qui gêne la population des banlieues.
On va y venir encore un mot sur ce tour de table, premier tour de table, Marie-Cécile Nave, au think tank Sport et Citoyenneté. Vous évoquez souvent cette nécessaire installation, déploiement de dispositifs sportifs, de structures pour les jeunes, et là apparemment on voit que ces bandes-là s'en prennent justement à ce qui relève de ce qui pourrait aider finalement les jeunes à sortir des quartiers.
Là, on est quand même dans la délinquance assez grave. Hein, ouais. Donc, ce n'est pas un terrain de sport qui va, qui va pouvoir pallier ce problème-là, en tout cas de manière simple. Sinon, ça se saurait, on l'aurait déjà fait. On en a déjà fait et puis ça n'a pas forcément toujours marché, mais ça serait sûrement pire si on ne l'avait pas fait,
vous
pourriez me dire. Là, on est vraiment dans une volonté de détruire, de nuire, et c'est au-delà de la politique publique d'associer les habitants, dont on parlera peut-être tout à l'heure avec les Jeux Olympiques.
Alors Philippe Martinin, et vous-même, vous évoquez cette volonté de détruire. Écoutez les arguments de Catherine Arenoux, c'est la maire LR de Chanteloup. Pour elle, l'incendie du chapiteau était délibéré.
Bien évidemment qu'il y a des choses qui dérangent, bien évidemment qu'il y a des choses qui bousculent. C'est pas la seule solution. Mais la rénovation urbaine, est-ce qu'elle n'a pas vocation à bousculer? Parce que cette ville-là, elle doit être normale à un moment donné. Cette normalité, ben, ça, c'est aussi de la démolition, de la reconstruction, des nouveaux habitants, des anciens qui réussissent, qui ont envie de s'en aller. C'est ça la normalité. Donc il y a des choses qui dérangent.
Il y a des choses qui dérangent, hein, Gilles Bornstein, on a bien compris, ce sont les trafics. Hein.
Oui, ce sont les trafics. Cette maire de la vie générale fait plutôt bien son boulot, essaye de bouger, essaye d'investir, essaye de drainer des financements vers sa commune, et ça dérange un certain nombre de dealers. Donc voilà.
Elle est soutenue par tout son conseil municipal.
Elle
d'ailleurs,
est soutenue par tout son conseil municipal. Ouais. On sent que, quel que soit, enfin, au-delà de la couleur politique, elle est assez soutenue. Et c'est vrai que ça dérange. Mariam tout à l'heure a dit. Et je pense qu'elle a raison, que quand le Premier ministre dit des imbéciles, peut-être que le terme est un peu faible. J'ai entendu sur une autre chaîne Frédéric Pechenard rappeler, en parlant d'un ministre de l'Intérieur, dont je suppose que c'est Nicolas Sarkozy, dont il était très proche, qu'au début on disait « il y a des jeunes qui font des tournantes ». Et puis un jour il a dit « c'est pas des jeunes qui font des tournantes, c'est des violeurs ». Ouais. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce sont des délinquants.
Allez, nous marquons une pause à 20h10 sur France Info pour le rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Et trois ministres seront demain à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice notamment vont afficher leur fermeté après cet incendie d'une école de cirque dans la ville et l'agression de plusieurs policiers dans la nuit de samedi à dimanche. Le parquet de Versailles ouvre une information judiciaire. Les deux personnes interpellées dans ce dossier doivent être placées ce soir en détention provisoire. La Chine et l'Union Européenne s'entendent pour garantir des indications géographiques protégées sur les produits d'importation. Emmanuel Macron, en visite dans le pays, doit signer après-demain un accord avec le président Xi Jinping. 26 appellations françaises sont concernées, comme les vins de Bordeaux et de Bourgogne, le Calvados et certains fromages. Une quinzaine de partis de gauche lancent une campagne de communication pour redonner un peu de vigueur au référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Privatiser, c'est voler. Voilà le slogan de ce clip diffusé dès demain sur les réseaux sociaux. Pour lancer un référendum sur le sujet, il faut près de 5 millions de soutiens. On est loin du compte pour l'instant, avec 900 000 signatures recueillies en 5 mois. Le ministre allemand de l'Intérieur estime qu'il y a dans son pays une exacerbation problématique de la violence. Plusieurs élus, notamment des écologistes, ont reçu des lettres de menace de mort par un groupuscule néo-nazi. Le tout quelques mois après l'assassinat d'un responsable politique local par un militant d'extrême droite. L'air est irrespirable en ce moment à New Delhi, la capitale indienne est plongée dans un brouillard de pollution, des niveaux de particules dans l'air 80 fois plus élevés qu'à Paris au même moment, 20 fois au-dessus des niveaux limites définis par l'Organisation mondiale de la santé.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Le sport est-il l'une des clés d'entrée de reconquête de certains territoires? Nous allons y venir dans un instant avec l'évocation des JO 2024, mais il y a peut-être d'autres solutions. C'est du moins ce qu'a voulu expliquer ce matin Guillaume Pelletier, député Les Républicains du Loir-et-Cher, vice-président délégué de LR, qui était l'invité de Marc Fauvel et Renaud Dely sur France Info.
Dans toutes les villes de France, des minorités agissantes se croient tout permis parce que la police n'a pas suffisamment de moyens, parce que lorsqu'elle en a, la justice est trop lente, et parce que même quand la justice n'est pas trop lente, les sanctions ne sont pas appliquées avec rapidité et fermeté. Ces mineurs délinquants récidivistes, au-delà des sanctions judiciaires qu'ils méritent, puissent par exemple aller dans des services militaires obligatoires. Le service militaire obligatoire, l'encadrement, le réapprentissage des valeurs de la République, de l'autorité de l'État, du respect civique, sont des valeurs à réimposer. Le service militaire, ça n'est pas un gros mot.
Philippe Martinin, retour du concept du service militaire, ou peut-être camp de redressement, pense-t-il en creux, Guillaume Pelletier. Est-ce que vous pensez que ce serait une solution efficace?
J'ai l'impression que c'est un peu un serpent de mer, hein, cette histoire de... on le supprime, certains veulent le remettre, ensuite on dit non, etc. Ou il y a des formules intermédiaires, tout ça m'a pas l'air très efficace.
Ça vous fait sourire, Marie-Cécile Nave ?
N'était-ce pas la présidence de Nicolas Sarkozy qui a supprimé je ne sais plus combien de dizaines de milliers de postes de policiers et qui maintenant déplore qu'on en manque. Bon.
Oui, Gilles Bernstein.
Enfin, je trouve ça quand même assez démago, parce que le service militaire, on peut être pour, on peut être contre. J'ai l'impression qu'il y a un certain consensus aujourd'hui sur sa suppression. Mais si on le rétablit, on ne le rétablit pas que pour les délinquants. Si on considère qu'on doit faire que... C'est logique que dans une nation, on fasse son service militaire, tout le monde le fait. On ne va pas réserver aux délinquants le fait de servir à l'armée. C'est complètement stupide. Enfin, je trouve que ça n'a pas de sens de le réserver aux délinquants. Sinon, vous l'avez dit, c'est des camps de redressement. Il faut qu'ils le disent. Ce qu'ils veulent, c'est des camps de redressement.
Allez, Mariam Pirzadeh, peut-être un mot là-dessus encore. Le sport plutôt que l'armée.
C'est compliqué. Non, mais c'est surtout la baisse des effectifs. Vous savez qu'à Chantoux-les-Vignes, il n'y a plus de commissariat, par exemple. C'est compliqué, effectivement, pour intervenir rapidement sur des scènes de délit.
Allez, 11 ministres ont fait le déplacement ce matin à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, on y vient. Le coup d'envoi du chantier du village des athlètes de Paris 2024, c'est l'équivalent d'une équipe de foot. Gilles, je parle sous votre contrôle, 11. Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
C'est un peu la ville de 2050 qu'on essaie de bâtir ici, en Seine-Saint-Denis. On a envie de logements qui soient forcément éco-conçus, pour qu'ils soient exemplaires, mais aussi un vrai quartier de vie. Il y aura des écoles, une crèche. C'est pas juste des logements coupés de tout le reste, mais c'est vraiment la volonté, de réaménager la ville de demain et de pouvoir l'utiliser pendant les Jeux.
Gilles Bernstein, est-ce que l'on parle de JO 2024 ou d'aménagement de la Seine-Saint-Denis ?
Je dirais les deux.
Du territoire.
Je dirais les deux. Après tout, on a beaucoup...
C'est une bonne chose ou pas ?
Oui. Qu'on se serve des Jeux pour aménager un territoire ? Oui, c'est une bonne chose. On a beaucoup... Enfin, les Jeux précédents dans différentes villes du monde ont beaucoup été critiqués parce que ça flambait pendant 15 jours, le tout payé par le contribuable local, et puis après, ça ne servait plus à rien. Je suis passé à Athènes il n'y a pas longtemps. C'est vrai que les installations des Jeux d'Athènes, il n'y a plus rien. Enfin, c'est en ruine. À Rio, c'est la même chose. Donc, que le projet soit pensé pour être pérenne et pour que ça serve à quelque chose après, évidemment, je trouve ça plutôt bien. Après, il faut que ça se fasse. C'est-à-dire, on nous promet que le village olympique sera transformé en 3500 logements sociaux, il faudra être très attentif sur la réalisation des choses. Mais sur l'idée, je trouve ça très bien.
Parce que Philippe dit qu'il faut qu'il reste quelque chose.
Voilà. Mais non seulement je trouve très bien, mais je pense que c'est indispensable. Il n'y aura plus de Jeux Olympiques s'il n'y a plus de projets dans lesquels la transformation est pensée en amont.
Marie-Cécile Nave, vous êtes d'accord avec ce que développe Gilles Bernstein ? On est en plein dans sport et citoyenneté, là, pour le coup. Hein.
C'est une évidence, hein, ce que vous venez de dire. Il n'y aura plus de Jeux Olympiques s'il n'y a pas un projet de société qui est pensé en amont et qui est évalué en aval. Et d'ailleurs, on rappelle que Paris 2024 a obtenu les Jeux sur cette promesse d'héritage. C'est ça qui a fait que les autres candidats se sont petit à petit sortis eux-mêmes de la course. C'est vraiment le projet d'héritage qui a poussé Paris jusqu'à...
Ça a été vraiment un élément majeur dans la décision.
C'est un élément majeur. Aujourd'hui, ça fait partie des grands objectifs de l'organisation de ces JOP, ces Jeux Olympiques et Paralympiques, comme Tony Estanguet le rappelle. Et l'image du gouvernement qui vient en interministériel, en Seine-Saint-Denis, elle est belle, mais après... Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Ça ne se décrète pas un héritage, ça ne se décrète pas une politique sociale, éducative, d'emploi, de valorisation du bénévolat, de prise en compte des attentes et des besoins des habitants et d'un territoire. Ça ne se décrète pas, il faut une politique structurelle. Et jusqu'ici...
Existe-t-elle ?
Elle est en train d'être pensée à Paris 2024. La ville de Paris est aussi très impliquée. Mais jusqu'ici, les grands événements sportifs internationaux qui ont été organisés en France avec beaucoup de promesses, notamment de développement du territoire, ont été vraiment douchés. Et le dernier exemple en date dont la Seine-Saint-Denis a très très bonne mémoire, c'est l'Euro 2016 de foot masculin, qui a été un désastre en termes de... valorisation du territoire de la Seine-Saint-Denis.
D'héritage ensuite, c'est ça, de transformation. Philippe Martina, on a la sensation qu'on est dans l'acte 2, quelque part, de l'opération 93 Seine-Saint-Denis, puisqu'il y avait eu l'annonce des 23 mesures la semaine dernière.
Oui, enfin, moi je pense que le projet en lui-même a été effectivement pensé un petit peu en amont, et c'est quand même intéressant qu'il s'adresse à un département qui est le département à la fois le plus jeune de France et puis le plus déshérité en même temps. Et donc tout ça, ce sont des équipements qui quand même vont rester. Il y a quand même eu par le passé, Londres par exemple, il y a eu des héritages en termes de logements qui sont aujourd'hui, on a équipé totalement des quartiers, on a vu sortir des quartiers nouveaux, et j'espère que ça sera le cas pour la Seine-Saint-Denis. Alors, il faut qu'il y ait peut-être une concertation qui, actuellement, certaines associations locales disent, bon, on aimerait bien être un peu plus associés et ça va un peu trop vite, et voilà. Alors, en même temps, il faut respecter aussi les délais pour être prêt au jour J. Mais je crois que c'est un formidable pari, et vraiment, je crois d'ailleurs qu'il y a la population de Seine-Saint-Denis attend cet événement et attend les retombées de cet événement avec beaucoup d'impatience.
Mariam Pirzadeh, le Premier ministre a déclaré, il faut qu'il reste quelque chose. C'est aussi, dit-il, des pratiques, des politiques publiques, notamment le fait de redévelopper la pratique sportive chez nos concitoyens. On a la sensation que nous sommes quand même dans quelque chose de l'ordre de l'incantation.
Oui, puis c'est aussi se justifier sur les coûts exorbitaux, effectivement, de ces Jeux Olympiques, les travaux qu'il y a en ce moment à Paris, lorsque les agents immobiliers, lorsqu'on cherche à acheter un appartement, nous disent « dépêchez-vous, il faut acheter avant 2024, après ça va flamber, avant 2024 ». Donc on voit bien qu'il faut aussi…
De toute façon, il y a toujours un argument pour que ça flambe.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un argument pour que ça flambe. Mais celui-là, je l'ai beaucoup entendu ces derniers temps, effectivement, il faut acheter, ça va monter avec les Jeux Olympiques. Je pense que c'est bien, effectivement, de mettre en valeur, je suis d'accord avec Philippe Martinat, de mettre en valeur un département qui est le plus pauvre de France. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ces Jeux Olympiques? Est-ce qu'il va rester effectivement quelque chose? On verra après 2024.
Gilles Bornstein, sur les incantations d'Édouard Philippe, on peut dire que quand même les politiques publiques pourraient être pensées et articulées dès maintenant.
Concernant les jeux ou en général?
L'héritage des jeux, des dispositifs qui sont mis en place.
Quelqu'un l'a dit, de toute façon, les jeux, c'est très bien, ça permet, ça fait un bon argument, enfin, ça oblige l'État à rattraper 30 ans de politique publique. Bon, alors c'est vrai, alors on peut dire qu'il y a 30 ans de retard dans les politiques publiques et se dire que c'est pas bien et qu'on aurait pu le faire avant. Maintenant, il y a ces jeux, si ça sert à quelque chose, tant mieux. Après, c'est pas évident parce que par exemple, ces 3500 logements.
Que vous évoquez tout à l'heure, ils sont actés ou pas?
Oui, ils sont actés, mais moi, je sais pas, peut-être que vous savez comment ça va se passer après. C'est l'État qui va en être propriétaire, ça va être redonné à bailleurs sociaux, ça va être redonné.
Bon, c'est toujours un mixte, il y aura beaucoup de bailleurs sociaux et puis il y aura une partie, je pense, qui sera en accès à la propriété.
Et alors, après, il y a les équipements sportifs eux-mêmes, ça, j'y crois pas trop. Par exemple, la piscine olympique qui va être construite, c'est tout. Enfin, de toute façon, dans tous les jeux, le problème, c'est la piscine olympique, parce qu'un stade, on peut jouer au foot dedans.
Et dans les années 30, les Jeux olympiques à Colombes, il y a toujours une piscine olympique, on va pas s'en servir.
On peut faire des concerts, il peut y avoir les Stones ou qui vous voulez dans un stade, dans une piscine. À part les championnats du monde et les Jeux olympiques, je vois pas trop. Mais enfin, allez, si ça fait de l'emploi pendant 4 ans, tant mieux.
Nous marquons une pause à 20h20 sur France Info. On reste sur ces questions liées au sport. Rappel de l'info avec vous tout d'abord, Jules Dekis.
Deux des auteurs présumés des violences contre des policiers et l'incendie d'un centre culturel à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines ce week-end doivent être placés ce soir en détention provisoire. Le parquet de Versailles ouvre une information judiciaire et 3 ministres seront sur place demain. Le chapiteau de cirque ravagé par les flammes sera lui reconstruit dans l'année qui vient, assure le président du conseil départemental. La Commission européenne suspecte 2 géants de la distribution en France de s'être entendus sur des prix de vente aux consommateurs. Elle ouvre une enquête sur Casino et Intermarché qu'elle soupçonne d'avoir enfreint les règles de la concurrence. Bernard Pivot salue sur France Info, un romancier cosmopolite, un écrivain moderne dans sa vision du monde et dans son écriture. L'Académie Goncourt qu'il préside remet à Jean-Paul Dubois la plus noble des récompenses littéraires. Elle consacre son 22e roman, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Et c'est donc raté pour Amélie Nothomb qui arrive juste derrière avec 4 voix du jury contre 6. Un peu moins de 20 000 foyers sont toujours privés d'électricité en région Nouvelle-Aquitaine ce soir après le passage d'une tempête. La situation s'améliore donc, mais le département de la Charente-Maritime reste en vigilance orange pour des risques d'inondation. Et puis Kim Clijsters repousse son retour à la compétition. L'ex numéro 1 mondial du tennis devait revenir sur les courts pour l'Open d'Australie en janvier prochain, mais une blessure au genou vient contrecarrer ses plans. La joueuse belge dit rester déterminée plus que jamais 7 ans après sa première retraite sportive et la naissance de 3 enfants.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquilini.
La Seine-Saint-Denis, c'est l'autre visage de la France, a déclaré tout à l'heure Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui était l'invitée du 1850 France Info, qui s'est défendue de toute baisse, on va dire, substantielle du budget des sports. Et pourtant, il y a eu aujourd'hui ce communiqué du Comité National Olympique et Sportif Français dans le journal L'Équipe pour interpeller gouvernement et parlementaires, réclamer un budget du sport français à la hauteur des ambitions du pays. Marie-Cécile Nave, le CNOSF reproche notamment aux parlementaires et au gouvernement, à la majorité, une diminution de plus de 20% du budget des clubs de sport français. Est-ce qu'on a un double discours aujourd'hui en matière de sport et de budget?
Alors, le CNOSF et la ministre des Sports ont historiquement toujours été un petit peu en rivalité pour l'incarnation du sport français. Quand on parle de sport, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle du haut niveau, ce qui est plutôt le rôle traditionnel historique du CNOSF, qui commence à s'intéresser quand même au sport pour tous,
au
sport amateur et au sport pour tous, et surtout du sport en dehors des clubs, en dehors de la sphère fédérale, qui est un secteur qui croit beaucoup. Et par ailleurs, c'est peut-être contre-intuitif parce qu'on est ultra informé, on est ultra sensibilisé, mais la pratique sportive et les activités physiques et sportives quotidiennes, pas que le sport, mais aussi l'activité physique, sont en diminution dans la population française et européenne. Toutes les enquêtes européennes le montrent, en particulier dans les jeunes générations, mais pas que. Et donc, il y a un effort à faire pour, comme le dit le Premier ministre, faire en sorte que les gens fassent plus de sport. Il y aura le mois de septembre, je crois, consacré à la pratique sportive pour tous. Ok, très bien. Comment fait-on concrètement pour que la population...
Tout ça reste à mettre en place.
Hein, tout ça reste à mettre en place. Oui. Quand il y a, par exemple, je vois une des mesures annoncées qui est l'exemption des charges dans le cadre de la pratique sportive pour les entreprises qui offrent des activités sportives à leurs salariés. Super. Quand d'un autre côté, l'URSSAF décrète que les installations sportives en entreprise sont un avantage en nature et donc pénalisent les salariés et les entreprises, c'est pas très cohérent.
Donc vous dites,
il faut avoir une vision globale.
Tout reste à faire, il faut une vision globale.
Vision globale que l'interministériel se concrétise.
Alors Gilles Bornstein, ça va vous intéresser parce que j'ai posé aussi la question à la ministre sur le fait que le footballeur Mario Balotelli a de nouveau été la cible de cris de singe hier soir en championnat d'Italie. Écoutez ce qu'a répondu à ce sujet. Doivent-ils les joueurs quitter le terrain? Ce qu'a répondu Roxana Maracineanu dans le 1850 France Info.
Moi, j'appelle à la responsabilité des athlètes, des arbitres. Je l'ai déjà fait. Ils ont pris cette responsabilité, les arbitres, en tout cas en France, d'arrêter les matchs lorsqu'il y a des comportements discriminatoires des supporters, des joueurs entre eux. Et aujourd'hui, voilà, je pense que chacun doit prendre sa responsabilité. Effectivement, arrêter de jouer, s'en aller, quitter le terrain, c'est aussi une manière de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe sur un terrain. Et que ce soit des discriminations ou purement de la violence qui va trop loin, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans le sport comme ce n'est pas acceptable dans la société.
Gilles Bornstein, quitter le terrain pour les joueurs, ce serait une attitude nouvelle ? Efficace ?
Oui, ça serait une attitude nouvelle. Ce qui serait une attitude nouvelle, c'est que les dirigeants et les entraîneurs condamnent aussi ce genre de propos. Parce qu'on m'a souvent raconté que des joueurs noirs qui, effectivement, sont victimes de racisme, surtout dans le sport amateur, les entraîneurs leur disent « mais t'inquiète pas, c'est pas grave, allez, continue, il n'y a pas de problème ». Donc, il faut une prise de conscience. Deuxième aspect, pour une fois, c'est pas nous qui sommes les plus cons du monde, si je puis dire. C'est-à-dire que autant on a parlé d'homophobie, et c'est vrai qu'il y a des propos homophobes, alors on peut discuter de savoir si ces propos sont réellement homophobes ou pas, mais pour les cris de singe pour des joueurs blacks, ça se passe en Italie, ça se passe en Espagne, en fait, ça se passe surtout en Italie. Alors je vous dis pas que tous les supporters français sont des grands intellectuels tolérants, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ces cris de singe, c'est surtout en Italie.
Mariam Pirzadeh, vous avez la sensation que les bonnes réponses sont apportées à ces problèmes de racisme dans les stades ?
Non, puis j'ai l'impression, c'est un peu comme les insultes homophobes. On avait vu aussi le président de la Fédération française de football avec un peu cette cacophonie. Il n'avait pas vraiment pris une position très claire. C'est un peu pareil avec les cris racistes. J'ai l'impression que personne n'arrive vraiment à... Alors, tout le monde condamne, effectivement, mais il n'y a aucune mesure qui est mise en place pour contrer ce genre de mesures, pour contrer ce genre de cris. qu'on entend encore en 2019 dans des stades en Italie ou dans d'autres pays. En Europe, c'est quand même aberrant.
Philippe Martina ?
Je crois que les clubs des supporters doivent faire un peu le ménage, quoi, chez eux.
On en est toujours là. Hein.
Ben oui, on en est toujours là, mais pour reprendre l'expression d'Edouard Philippe, il y a quand même qu'il y a toujours des imbéciles parmi eux qui poussent des cris, enfin vraiment du racisme bête et méchant. Et bon, c'est à eux de faire le ménage et puis de les mettre dehors, c'est tout.
Allez, pour la deuxième partie des Informés de France Info, nous irons faire un détour par Washington dans un instant avec Grégory Phillips pour évoquer ces élections américaines tout juste dans un an, 20h et 28 minutes sur France Info. Nous marquons une pause, nous nous retrouvons dans une poignée de minutes.
Communication à caractère promotionnel.
La Française des Jeux entre en bourse. Bientôt, vous pourrez investir dans une entreprise performante, en croissance et utile à tous. Avec environ 3,5 milliards d'euros reversés chaque année à la collectivité. Entrez dans l'histoire. Entrez dans le capital de FDJ.
L'investissement en actions présente un risque de perte en capital. L'attention du public est attirée sur les facteurs de risque figurant dans le document d'enregistrement approuvé par l'AMF. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Politique.
Enquête.
Sport.
Invité.
Culture.
Interview.
Économie. Pour l'info 24h sur 24. France Info. Et tout est plus clair.
France Info Météo avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
Les prévisions météo avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Les conditions seront encore bien instables demain avec un ciel souvent nuageux à très nuageux et des risques d'averses. C'est entre la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central et les bords de la Loire et la Bourgogne que les averses seront le plus fréquentes, en particulier sur les contreforts exposés au vent. Et des orages pourront aussi éclater sur les côtes atlantiques. La Corse sera également balayée par des averses orageuses demain, arrosant surtout l'ouest. En plus des averses, le vent sera bien sensible sur les régions de l'ouest et le pourtour méditerranéen. En matinée, le soleil fera de belles apparitions entre le Languedoc, Rhône-Alpes, la Franche-Comté et les frontières allemandes. Demain après-midi, ces belles éclaircies s'étendront entre la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Savoies. Les températures seront en baisse demain. L'après-midi, il fera 12 degrés au Havre, à Lille, à Paris, à Metz et à Dijon. 13 degrés pour Brest et Clermont-Ferrand, 14 degrés à Toulouse et à Lyon, 16 degrés à Marseille, 18 degrés pour Perpignan et on ira jusqu'à 21 degrés à Ajaccio.
Et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Guillaume Fariol.
Bonsoir. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Ville seront demain matin à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Ils doivent visiter les décombres du centre des arts de la Seine et du cirque détruit dans un incendie criminel samedi soir. Deux suspects présentés ce soir à un juge en vue d'une mise en examen. Une information judiciaire ouverte pour meurtre aggravé dans le Loiret après un double meurtre, celui d'une infirmière et de son patient il y a deux semaines près de Montargis. Pour l'instant, aucun suspect n'a été interpellé. Près de 200 manifestants devant le collège Lamartine de Toulouse cet après-midi. Des associations féministes, des syndicats de l'éducation nationale, des parents aussi. Ils dénoncent le silence de la direction de cet établissement après la mise en examen de trois élèves poursuivis pour viol en réunion et agression sexuelle sur d'autres collégiennes. Des faits qui remontent à mars dernier. Parmi les manifestants, la mère de l'une des victimes. Elle accuse la direction d'avoir tenté de cacher les faits.
Tout le personnel de l'établissement était au courant, tous les élèves étaient au courant, il y avait des vidéos qui circulaient et tout le monde cachait tout. Franchement, c'est horrible, c'est horrible. Honnêtement, elle va très très mal. De toute façon, le médecin expert psychiatre m'a dit qu'elle était carrément détruite, qu'elle est dans un état grave psychologique. Et là, de toute façon, elle est suivie par une psychiatre. Et après, je vous dis honnêtement, la suite, je ne sais pas. Après, moi, j'essaie de la protéger tous les jours avec mon mari et... Je fais mon maximum pour elle, pour la préserver.
Après le passage de la tempête Amélie ce week-end, l'électricité est rétablie dans tous les foyers de Corse. En Nouvelle-Aquitaine, en revanche, plusieurs milliers sont toujours sans courant, 18 500 selon le dernier décompte d'Enedis à 17h. La Commission européenne ouvre une enquête sur les groupes Casino et Intermarché, les deux distributeurs français soupçonnés d'avoir coordonné leur politique de prix, ce qui est interdit par les règles de Bruxelles sur la concurrence. En déplacement en Chine, Emmanuel Macron appelle à l'unité de l'Union européenne européenne pour peser face à Pékin sur les dossiers économiques. Le chef de l'État annonce également la signature d'un accord entre l'UE et la Chine sur les indications géographiques protégées, les IGP. Il doit permettre d'éviter les contrefaçons de nombreux produits. Cet accord sera signé mercredi après-demain, selon le chef de l'État. La visite du roi d'Espagne à Barcelone ne passe pas chez les indépendantistes catalans. Plusieurs milliers de manifestants dans les rues de la ville contre la venue de Felipe VI. C'est le premier déplacement du monarque à Barcelone depuis la condamnation de plusieurs leaders indépendantistes à de la prison ferme. C'était le mois dernier. Tout arrive, c'est adorable, c'est assez irréel. Les mots de Jean-Paul Dubois, l'auteur, remporte le prix Goncourt pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est son 22e ouvrage publié chez L'Olivier. Jean-Paul Dubois, choisi par le jury du Goncourt au deuxième tour face à Amélie Nothomb et son roman Soif. 20h33 sur France Info. Les informés, Jean-François Aquili.
France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Avec Marianne Pirzadeh, journaliste présentatrice à France 24, Philippe Martina, grand reporter politique au Parisien aujourd'hui en France, avec Marie-Cécile Nave, docteur en sciences politiques, directrice des études du think tank Sport Citoyenneté, chercheuse associée à l'IRIS, spécialiste des États-Unis, avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Dans un an, jour pour jour, les Américains éliront leur nouveau président. Journée spéciale sur France Info. Suite avec cette question posée aujourd'hui. Stop Trump, stop ou encore. Bonsoir à vous, Grégory Phillips.
Bonsoir.
Correspondant de Radio France et de France Info à Washington. Grégory, Trump or not Trump dans une année, d'après vous?
C'est une bonne question. Ouais. Écoutez, il est confiant en tout cas. Il le dit dans ses meetings. Il l'a répété hier soir sur la pelouse sud de la Maison Blanche. Il se voit réélu dans un an et pour 4 ans à la Maison Blanche. Il y a plusieurs signes qui lui donnent confiance. D'abord, les collectes de fonds. Trump bat les records en ce moment. Lui et le Parti républicain ont ramassé 125 millions de dollars au troisième trimestre. C'est beaucoup plus que n'importe lequel de
Pourquoi
ses adversaires démocrates.
Parce qu'il sait faire, Grégory, c'est ça? Il est champion.
Oui, et parce que le Parti républicain, la machine est derrière lui. Mmh. Et puis, il y a pour l'instant qu'un seul candidat républicain face à 17 démocrates qui se partagent les fonds des donateurs démocrates. Ensuite, certes, il est donné perdant dans les sondages nationaux face à peu près n'importe lequel de ses adversaires. Mais si on regarde état par état, on s'aperçoit que par exemple dans le Michigan, il peut encore l'emporter comme en 2016. Et tout le monde sait évidemment qu'aux États-Unis, c'est pas le vote populaire qui compte, mais bien les quelques états qu'il faut choisir. C'est ce qu'il avait fait gagner en 2016, et il pense qu'il peut refaire ce coup-là entre guillemets. Ouais. Et puis la troisième raison pour laquelle Trump est assez optimiste un an avant cette élection, c'est que au moment où on se parle, il n'y a pas vraiment de figure qui éclate dans les rangs démocrates. Il y a, disons, un trio de têtes qui apparaît dans les sondages, mais pas une personnalité extrêmement marquante, comme on avait vu Obama, par exemple, il y a quelques années. Et donc, Trump se dit que ce soit face à Biden, Sanders ou Warren, il a vraiment une carte à jouer.
Grégory, encore une question avec vous. Est-ce que les Américains, les citoyens des États-Unis se passionnent pour cette campagne un an avant?
C'est difficile à vous dire. Il y a en ce moment cette campagne des primaires démocrates qui se joue dans quelques états, Iowa, New Hampshire, Pennsylvanie, et où les candidats littéralement ratissent le terrain pour se faire connaître auprès de l'électorat démocrate. Et on voit que, par exemple, un jeune candidat encore inconnu il y a quelques mois, Pete Buttigieg, le maire de South Bend, Indiana, arrive à attirer des milliers de personnes quand même à chacun de ses meetings. On voit que Trump aussi, parce qu'il est déjà en meeting, hein, on est à un an de l'élection, mais ce soir, par exemple, il est dans le Kentucky, et bien à chaque réunion politique, il y a des milliers de personnes. Donc il y a quand même cet intérêt pour la politique, mais c'est vrai qu'on est très loin. C'est le début d'un marathon ou d'un sprint qui va durer un an. Et en fait, on n'est pas encore vraiment dans le cœur du sujet, parce que tout commencera début février avec le premier caucus de l'Iowa. Et là, véritablement, on sera parti vers cette présidentielle de 2020.
Allez, merci à vous, en tous les cas, Grégory Phillips, pour cette correspondance en direct de Washington. Je me tourne vers vous, Philippe Martina, vous pensez-vous que le président des États-Unis, on a entendu les arguments de Grégory Phillips, notamment sur la comptabilité, hein, pas au niveau national mais état par état, peut prolonger son bail?
Ah ouais, certainement, parce que il a piégé comme ça les démocrates une première fois. Alors je pense que cette fois-ci, les démocrates vont faire un peu plus attention. Mais je vois un avantage aussi à Trump, c'est que il est parti très très tôt. C'est-à-dire que il s'est lancé officiellement en campagne le 18 juin, mais en fait, il était quasiment en campagne au lendemain de son élection. Ça fait 3 ans qu'il est en campagne, et puis il a cette formidable caisse de résonance qu'on a lorsqu'on est à la Maison-Blanche, lorsqu'on est le président sortant. Donc, moi, ce qui m'inquiète un peu pour les démocrates, c'est que quand même ce retard à l'allumage qu'ils risquent d'avoir, même si actuellement ils sont en campagne, effectivement, dans les premiers États où il y aura des primaires, l'Iowa, le New Hampshire, etc., et j'ai l'impression que Trump peut avoir pris une avance assez considérable et peut-être qu'ils ne le reverront pas.
Marie-Cécile Nave, pour prolonger la réflexion de Philippe Martinac, comment est-ce qu'on fait campagne en pleine procédure d'impeachment?
Quand on est victime d'une procédure d'impeachment, en tout cas dans le cas de Trump, on s'arrange pour que le récit qui est fait de cette procédure soit à son propre avantage. C'est ce qu'il essaie de faire, mais c'est plus dur quand même pour lui que pour l'affaire russe, par exemple, pour l'enquête russe, où il avait un temps d'avance sur le récit.
Là, c'est l'affaire ukrainienne. Hein.
Voilà, l'affaire ukrainienne, les démocrates, Nancy Pelosi...
Qui a des chances d'aboutir ou pas, hein.
Pour l'instant, qui a très peu de chances d'aboutir, sauf si vraiment l'opinion publique se retourne de manière massive, et notamment se retourne chez les Républicains. Il y a une courte majorité dans l'ensemble de l'opinion publique en faveur de la procédure d'impeachment, mais chez les électeurs républicains ou sympathisants républicains, ils ne sont pas d'accord avec cette procédure.
Il faudrait que les deux tiers des sénateurs américains votent à la fin.
Oui, mais si l'opinion publique, notamment chez les électeurs républicains, bascule en faveur de cette procédure d'impeachment, il pourrait changer d'idée, mais pour l'instant on en est très loin.
Mariam Pirzadeh, votre regard sur les à France 24, sur les chances de Monsieur Trump?
Effectivement, on parle beaucoup. Alors en fait, il a réussi un exploit incroyable, Donald Trump, c'est que je remarquais ça la dernière fois, dans chaque journal. On parle de lui. Chaque jour, on parle de lui en France. Ouais, parle de ses bourdes. Alors nous, en tant que Français, on peut être horrifiés hein, par ses bourdes, par ses erreurs. Il confond quand même l'Allemagne avec la France et tout ça. Mais finalement, lorsqu'on se rend dans l'Amérique profonde, parce qu'il faut pas... Les États-Unis, c'est pas New York, c'est pas Washington. Quand on se rend dans les États-Unis, dans le Midwest notamment, on voit qu'il est très populaire parce que il affiche, et il le met vraiment en avant, des indicateurs qui sont au vert. Regardez ce que je fais, regardez comme je suis respecté, regardez, je suis parti en guerre contre la Chine, on va gagner, make America great again, on va rendre les États-Unis encore plus grands qu'ils n'étaient, et ça flatte l'ego du citoyen américain.
Gilles Bornstein, sur ses chances de Donald Trump, on en parle tout le temps aux informés.
Oui. Hein. J'ai un peu regardé les enquêtes, j'ai un peu regardé les sondages où ça en était, où surtout ça en était à un an des élections dernières. Alors, c'est vrai, Grégory l'a dit tout à l'heure, il est donné battu contre les 4 principaux candidats démocrates par une marge importante entre 3,5 et 6,5. Mais on dit, mais oui, mais ils se sont tellement trompés il y a 4 ans, pourquoi leur ferait-on confiance? Alors ils ont répondu, ils ont 2 arguments, les sondeurs, ils disent, d'abord, on a travaillé, c'est vrai qu'on s'est trompé et on a travaillé. Et aujourd'hui, l'opinion est très polarisée. On ne savait pas trop ce que ça valait Trump il y a 4 ans. Aujourd'hui, l'opinion est très polarisée. Les gens sont très pro-Trump, très anti-Trump, et il y a de moins en moins d'indécis. Donc les sondeurs, un an avant l'élection, sont assez optimistes sur la fiabilité de leur pronostic. Pour autant, évidemment, comme Grégory l'a dit, ça se joue état par état. On n'en sait rien, surtout qu'on ne sait pas qui sera le candidat face à eux. J'ai regardé à un an des élections, celui qui était en tête chez les Républicains, c'était pas Trump, c'était un dénommé Ben Carson, que tout le monde a oublié, qui était donné favori des Républicains.
Pas un chanteur de country, mais qui était candidat des États-Unis.
Exactement.
Oui, président des États-Unis. Marie-Cécile, là, vous allez avoir la parole dans un instant, mais nous marquons une pause. Nous sommes un petit peu en retard, 20h41 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Gilles Dequisse.
Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Christophe Castaner et Nicole Belloubet, seront demain matin à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, là où des policiers ont été agressés samedi soir, là où des vandales ont mis le feu à un centre culturel, un chapiteau de cirque. Le parquet de Versailles ouvre une information judiciaire et les 2 personnes interpellées dans cette affaire doivent être placées ce soir en détention provisoire. La Charente-Maritime est toujours placée en vigilance orange pour des risques d'inondation. Et un peu moins de 20 000 foyers sont toujours privés d'électricité en région Nouvelle-Aquitaine après le passage de la tempête Amélie. On veut aussi que le monde découvre la Seine-Saint-Denis. Pour la ministre des Sports, invitée de France Info ce soir, les JO de 2024 doivent être un coup de projecteur sur le département. Roxana Maracineanu a lancé avec 11 autres ministres le chantier du village olympique aujourd'hui, un immense complexe entre Saint-Ouen et Saint-Denis. Il doit ensuite être reconverti en plus de 3000 logements. L'armée égyptienne affirme avoir tué 83 djihadistes dans le Sinaï le mois dernier, une zone désertique à l'est du pays dans laquelle sévit notamment le groupe État islamique. Maintenant, ta vie est foutue. Voilà ce qu'un membre de l'Académie Goncourt a glissé dans un grand sourire à l'oreille du lauréat de cette année, Jean-Paul Dumois. L'écrivain d'un naturel discret est promis à une grande notoriété maintenant qu'il a reçu la plus prestigieuse des récompenses littéraires pour son 22e roman, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Sylvain Tesson remporte lui le prix Renaudot pour La Panthère des Neiges.
France Info, et tout est plus clair.
20h-21h, les informés. Jean-François Aquili.
Nous allons comparer deux candidats, hein, le Donald Trump, le républicain, et la démocrate Elizabeth Warren. Arrêtons-nous sur le style Trump, sa sémantique. Souvenez-vous, il y a une semaine, son annonce de la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi, la tête du groupe terroriste Daesh.
La nuit dernière, les États-Unis ont abattu le premier grand terroriste du monde. Ils lui ont rendu justice. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. Le capturer et le tuer a été la priorité de mon administration. Il n'est pas mort en héros, il est mort comme un lâche, en pleurant, en gémissant, en se plaignant et surtout en sacrifiant trois enfants avec lui. Grâce à moi, en tant que commandant en chef des États-Unis, nous avons oblitéré son califat à 100%.
Marie-Cécile Nave, est-ce que cela parle à l'ensemble de l'opinion américaine ou à ses seuls supporters?
Alors là, il marque des points avec cette séquence. Sur le fond, c'est-à-dire sur le fait d'avoir éliminé al-Baghdadi, même si c'est pas lui tout seul, hein, les journaux et les radios dans la vôtre l'ont rappelé. Sur le fond, il marque des points en tant que chef de guerre, en tant que présidentiable à nouveau, en tant que leader. Et puis sur le style très combatif, très viriliste, très humiliant pour l'adversaire, là c'est plutôt à sa base.
Donc il fait les deux en même temps.
Oui, il fait les deux en même temps. Et ce style-là, c'est ça aussi qui galvanise ses électeurs et qui horripile ses opposants. Et vous aviez tout à fait raison, M. Bornstein, tout à l'heure, de dire que l'opinion est extrêmement clivée entre les pro et les anti-Trump. Au midterms, aux élections de mi-mandat, il y a tout juste un an, ça avait plutôt joué en sa défaveur parce que il y avait eu une mobilisation électorale très forte des démocrates qui sont allés voter et qui ont donné une nouvelle majorité démocrate à la Chambre des représentants. Il semble que ça ne se... dans les enquêtes d'opinion qui paraissent, notamment, il y en avait une aujourd'hui dans le New York Times, très intéressante, ça ne veut pas dire que les gens qui sont allés voter tous démocrates au midterms ne vont pas voter pour Trump en 2020 parce que c'est une note logique. Et il faudra surveiller en particulier certains états clés, Michigan, Wisconsin, Floride, Caroline du Nord, on les connaît, mais aussi certains types de populations et en particulier les femmes blanches et les hommes blancs, diplômés et non diplômés du supérieur, c'est eux qui risquent de faire basculer l'élection. Et pour l'instant, Trump a un avantage par rapport notamment à Elizabeth Warren dans ces états-là, dans ces populations-là, alors que Biden est un candidat plus dangereux pour Trump.
Alors, Philippe Martina, pour poursuivre cette réflexion, est-ce qu'il n'y a pas chez Trump aussi une forme de déconstruction des institutions américaines, peut-être à la marge, je ne sais pas, notamment du fonctionnement de la Maison Blanche.
Pas à la marge, si on écoute...
Qui court-circuite son administration, ses militaires, la CIA, et tout le monde avec des tweets.
Bien sûr, si on écoute l'ancien ambassadeur de France, Haro, qui était à Washington... Et
vous aviez interviewé il y a 8 jours dans Le Parisien, aujourd'hui
absolument,
en France.
Absolument, il dit, mais il n'y a plus d'administration, on n'a plus d'interlocuteur, il n'y a plus personne dans les bureaux. Quand on tombe sur quelqu'un, on ne sait pas, il ne sait pas ce que le président va dire. Et si on l'interroge le lendemain, il ne sait pas exactement ce qu'il a voulu dire. Donc, il dit, c'est une situation assez incroyable. Mais Je pense que Trump, bon, ben, il prospère, il a ce discours anti-élite, anti-administration qui est très fort, anti-fonctionnaire. Moi, j'étais allé en reportage en Géorgie, les gens me disaient, mais ces fonctionnaires sont paresseux, etc., il faut les supprimer. Donc, que la moitié des fonctionnaires de Washington ne soient plus au travail, etc., n'aient pas été rembauchés, les gens s'en fichent dans l'Amérique profonde, dans la base, en tout cas, de républicaine de Trump.
Alors, vous évoquiez à l'instant Joe Biden, hein, le camp démocrate d'en face, et puis il y a le favori, c'est lui, hein. Et puis cette candidate qui occupe l'espace médiatique aujourd'hui, Elizabeth Warren, est candidate du Massachusetts.
Je ne mène pas une campagne dirigée par des consultants avec des idées vagues qui sont conçues pour ne pas offenser qui que ce soit. Je mène une campagne basée sur une vie de lutte pour les familles de travailleurs. Je mène une campagne avec le cœur.
Voilà, donc Elizabeth Warren, Maryam Pirzadeh n'est-elle pas un petit peu trop à gauche pour cette Amérique ?
Peut-être, c'est une professeure de droit, elle a un programme qui est extrêmement ambitieux, notamment la couverture médicale pour tous, un peu ce qu'avait fait Barack Obama avec l'Obamacare qui a détricoté Donald Trump. De toute façon, il a détricoté tout l'héritage de Barack Obama, mais elle n'arrive pas à expliquer comment elle va trouver les financements pour mettre en place son programme, comme vous dites, très à gauche. Et c'est justement sur ça qu'elle est attaquée régulièrement lors des débats entre les démocrates, et notamment par Joe Biden, parce qu'elle représente aujourd'hui une vraie menace pour Joe Biden. Son avantage par rapport notamment à Bernie Sanders et à Joe Biden, c'est son âge. Elle est un peu plus jeune qu'eux, enfin de quelques années, elle a 70 ans, quand, si je ne me trompe pas, Joe Biden a 76 ans et Bernie Sanders a 78 ans. Voilà, donc c'est son âge. Parce que Donald Trump attaque les démocrates, attaque notamment Joe Biden et Bernie Sanders sur leur âge qui est assez...
Gilles Bernstein, la gauche américaine, est-ce que cela peut, au fond, faire chavirer le scrutin dans un an ?
Bah, c'est l'éternelle question. C'est-à-dire que pour mieux vaut-il un candidat centriste pour prendre des voix de gauche ou un candidat très à gauche pour mobiliser la gauche ? La nouveauté, il y a 4 ans, à notre grand étonnement, à nous, occidentaux, c'est l'émergence de Bernie Sanders avec un vrai programme de gauche. On s'est rendu compte, enfin, ce que moi j'avais découvert, qu'il y avait un vrai électorat de gauche au sens européen du terme.
Socialiste.
Socialiste au sens européen du terme aux États-Unis. Là, ils sont deux à se le partager. Quand on voit les scores que font l'un et l'autre, ça veut dire que cet électorat, il existe vraiment. Et alors, Grégory disait tout à l'heure que Joe Biden était en avance au niveau national. Là, on parle de désignation démocrate. Mais pour les deux premières élections à venir qui donneront le temps de la campagne, Elizabeth Warren est en avance parce que pour les caucus de l'Iowa, ça, c'est 3 mois jour pour jour. C'est le 3 février. Donc, c'est vraiment demain. Comme il l'a dit, les candidats écument les départements. Si on fait la moyenne des sondages dans l'Iowa, Elizabeth Warren est à 22% et Joe Biden n'est qu'à 17%. Donc, elle pourrait commencer le début des primaires dans le New Hampshire, deuxième département à se prononcer, elle est aussi en avance, elle pourrait commencer relativement, enfin avec une assez forte dynamique le début des primaires.
Marie-Cécile Nave, on voit souvent ces candidats, vous en évoquiez tout à l'heure Gilles Bernstein, qui disparaissent soudain. Joe Biden, c'est le favori en face.
Oui, mais il est fragilisé par la question... La question ukrainienne, il est fragilisé par cette affaire. Et Trump ne s'y trompe pas. Il s'attaque à Biden. Il demande au président ukrainien d'enquêter sur Biden, ce qui est évidemment complètement interdit par les textes américains. Et c'est pour ça qu'il y a une procédure d'impeachment sur le dos. Il est fragilisé par ça. Biden, d'ailleurs, il y a un petit tassement dans les intentions de vote. Et il va devoir répondre, même si il n'y a rien qui, pour l'instant, incrimine son fils d'une quelconque corruption avec des entreprises ukrainiennes. Il est fragilisé. Comment il va réussir à répondre à ça et à rebondir ? On verra. Les démocrates, ils gagneront l'élection en 2020 si l'électorat va voter.
Allez, dans un instant, on va parler d'économie. C'est le nerf de la guerre quand même pour les États-Unis. Et pour l'heure, on marque une pause. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
On ne pourra plus vendre n'importe quoi en Chine sous le nom de vin de Bordeaux, de vin de Bourgogne, de Roquefort ou de Comté. 26 produits français, une centaine en tout au niveau européen, vont être protégés par des indications géographiques protégées. Emmanuel Macron, en visite à Shanghai, annonce qu'il va signer un accord sur le sujet après-demain avec le président chinois. La Commission européenne ouvre une enquête contre Casino et Intermarché. Les deux distributeurs sont soupçonnés de s'être entendus sur des prix de vente aux consommateurs. Ils auraient alors enfreint les règles européennes de la concurrence. la société des réalisateurs de films Radi, de ses membres ce soir, le réalisateur Christophe Ruggia. L'actrice Adèle Haenel l'accuse d'attouchement et de harcèlement sexuel. Les faits présumés remontent selon elle à son adolescence, quand elle avait de 12 à 15 ans. La société des réalisateurs de films adresse dans un communiqué son soutien total, dit la croire sans réserve et salue son courage. Une fois de plus, les indépendantistes catalans sont dans la rue. Manifestation à Barcelone en ce moment. Plusieurs milliers de personnes défilent contre la venue du roi d'Espagne en Catalogne. Les souverainistes catalans qui protestent depuis la mi-octobre contre des condamnations de plusieurs de leurs responsables politiques à des peines de prison. Le prix Goncourt pour Jean-Paul Dubois, le prix Renaudot pour Sylvain Tesson. Comme les feuilles à l'automne, les prix littéraires commencent à tomber. Un prix de la consécration pour Jean-Paul Dubois. Salut Bernard Pivot, le président de l'Académie Goncourt. Un prix qui récompense son 22e roman, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
J'évoque un instant le nerf de la guerre, l'économie, la guerre froide en réalité qui oppose les États-Unis de Trump à la Chine de Xi Jinping, la guerre économique entre ces deux géants. Au fait, la France peut-elle trouver un vague espace dans cette histoire? Il faut jouer européen, a dit Emmanuel Macron peu après son arrivée à Shanghai.
Il y a des agendas nationaux qui existent, on a les uns et les autres des échanges avec nos partenaires chinois, et la veille de cette deuxième édition de la Foire internationale, il était important de, évidemment, pouvoir se croiser. Mais je pense que plus on joue en franco-allemand et surtout en européen, plus on a de la crédibilité et des résultats.
On va parler de ce match États-Unis-Chine. Un mot tout de même, Mariam Pirzadeh, à l'instant, c'était Jules Dequis qui évoquait les IGP, les indications géographiques protégées. Est-ce qu'au fond, la France, même additionnée à l'Europe, à l'Allemagne au hasard, a un rôle à jouer dans cet immense bras de fer commercial entre ces deux géants?
En tout cas, effectivement, il y a une toute petite lisière dans laquelle l'Europe peut s'engouffrer. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne vient pas seul, hein. Il vient avec une ministre allemande, il vient aussi avec une commissaire européenne.
Oui, il y a un affichage très européen.
Ouais. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la France qui arrive en Chine, mais c'est l'Europe. Oui, c'est une première victoire, on parlait des produits. Mais quand vous regardez, effectivement, est-ce que la Chine, elle regarde encore vers l'Europe? Est-ce qu'on sent effectivement une perte de puissance que la Chine, elle ressent également? Donc là, il a une marge de manœuvre qui est quand même assez étroite, parce que là la Chine, elle est concentrée totalement sur les États-Unis, avec qui, donc on en parle, elle se livre une guerre commerciale. On va attendre aussi, est-ce qu'Emmanuel Macron va parler des sujets qui fâchent, notamment des droits de l'homme? Il est assez attendu dessus. Pas de doute.
Marie-Cécile Nave, est-ce qu'au fond, Chine et États-Unis ne seraient pas sur le seuil, en passe de signer une sorte d'accord commercial, de traité de paix, de guerre froide, pour s'emparer et de séparer le monde en deux?
Là, ça voudrait dire qu'on est capable de prévoir ce que va vouloir faire Donald Trump, ce qui est quand même très compliqué. Et en particulier sur ce sujet où il ne cesse depuis 3 ans de souffler le chaud et le froid.
Parce qu'il était question d'une phase 1 d'un accord sur la propriété intellectuelle, les tarifs douaniers, biens agricoles.
C'est pas cohérent d'un mois sur l'autre, parfois d'une semaine sur l'autre. Et puis la Chine ne se laisse pas faire, elle riposte. Et elle a un certain nombre... Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels elle est en avance sur les États-Unis, comme l'intelligence artificielle, certains sujets du numérique plus globalement. Et elle a aussi un pouvoir de frapper fort dans les droits de douane, qui pénalisent d'ailleurs les fermiers américains électeurs de Trump.
Philippe Martina, sur ce bras de fer Chine-Amérique, on a la sensation que, quelque part, il y a un avantage Chine aujourd'hui?
Oui, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que...
On évoquait à l'instant le numérique, la 5G, je pense particulièrement à la 5G.
Ah oui, certainement. Sur le plan des avancées technologiques, on voit bien que la Chine, qui pendant longtemps, et encore d'ailleurs, c'est encore le cas, a copié les brevets, les inventions occidentales. Aujourd'hui, elle a mis en route une machine de recherche, de production d'ingénieurs, qui fait qu'elle peut être très en avance sur un certain nombre de sujets, effectivement. Et d'où, effectivement, le danger que ressentent très bien à la fois les Américains et aussi l'Europe.
Est-ce que Trump est pertinent dans ce bras de fer commercial avec la Chine ou pas?
Marie-Cécile l'avait évoqué, son imprévisibilité. Je dirais que c'est à mettre peut-être à son crédit, c'est-à-dire qu'il a fait prendre conscience de manière un peu brutale au monde occidental que le rapport de force était inversé.
Oui, mais Obama l'avait déjà fait avec la volonté de désamorcer justement la puissance chinoise et de créer, d'impulser, d'encourager des accords commerciaux avec les États-Unis et d'autres pays d'Asie. Oui, mais aussi parce que ça s'est fait tardivement et qu'il faut pas que ce soit détricoté tout de suite par la suite.
Gilles Bornstein, le voyage officiel d'Emmanuel Macron se poursuit là, demain, après-demain. Est-ce qu'au fond, on a une carte à jouer dans cette affaire ?
Oui, enfin, on a une carte à jouer. La Chine a l'air un petit peu quand même affaiblie par la vigueur des réactions de Trump. La croissance en Chine est un peu moins forte qu'avant.
Marque le pas.
Et donc, Xi Jinping cherche des partenaires. Et puisque cherche
des alliés.
Ouais. Voilà, cherche des alliés dans sa guerre contre Trump. Alors, est-ce que nous avons intérêt à jouer le jeu de la Chine contre les États-Unis ? J'en suis pas tout à fait certain. Mais oui, certainement, Emmanuel Macron a certainement une carte à jouer en se faisant. Enfin, en étant une sorte de leader du monde européen, comme il essaye de le faire récemment.
Emmanuel Macron, il fait aussi un cadeau au président chinois, puisque demain, il sera au salon des importations. Donc aussi, pour la vitrine à l'international, c'est important pour Xi Jinping de montrer que le président de la République française est à ses côtés, justement en pleine guerre commerciale d'importation.
Oui, mais il a quand même un discours.
Un mot sur le primat de la Chine dont on a parlé. Oui. C'est une thèse assez contestée.
Pour conclure,
je lis les uns et les autres, et particulièrement à l'Iris, je sais qu'il y a des gens qui disent que le fait que la Chine devienne numéro un mondial de l'économie n'est pas du tout certain. Ce n'est pas acquis parce que, contrairement à ce qu'on dit, tout ce qui compte, c'est-à-dire la data, le transfert de données, le stockage de données, les Américains, pas l'État, mais les entreprises de la Silicon Valley et les GAFA ont une avance considérable qui pourrait empêcher les Chinois de les dépasser.
Allez, je vous rappelle le lancement du podcast Washington DC, ICI, de France Info et des radios francophones publiques installées à Washington pour vivre la campagne US sur l'appli France Info et sur franceinfo.fr. Philippe Martina, la une du Parisien aujourd'hui en France demain.
Je ne la connais pas.
je vous ai piégé. Allez, à découvrir dès ce soir en ligne si nécessaire.
Surprise.
Merci Mariam Pirzadeh, Philippe Martina, Marie-Cécile Nave, Gilles Bornstein d'avoir participé à ces informés de France Info. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition.